Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Claire Servageon.
Bonsoir Charline Vanhoenacker, on vous souhaite un bon week-end. C'est parti pour le 18-20 du vendredi avec une édition spéciale consacrée, vous l'avez deviné, à la formation du gouvernement d'Elisabeth Borne. On va y revenir longuement dans le journal de 18h, mais aussi avec nos invités juste après cette édition, jusqu'à 19h. Sachez qu'il y aura également un téléphone sonne spécial qui vous permettra de prendre la parole à partir de 19h20. Vous pouvez d'ailleurs déjà appeler le 01 45 24 7000, le standard est ouvert. Nous sommes donc ensemble jusqu'à 20h. Mais d'abord le journal. Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire, bien sûr, ce soir, un gouvernement de continuité plus que de rupture. Le gouvernement nommé cet après-midi avec le maintien de nombreux poids lourds du précédent quinquennat. Bruno Le Maire reste à Bercy, Gérald Darmanin à l'intérieur, Éric Dupond-Moretti à la justice. Parmi les entrants, la diplomate Catherine Colonna remplace Jean-Yves Le Drian. Au Quai d'Orsay, on fera son portrait. Et puis la surprise la plus symbolique, l'historien Pape Ndiaye à l'éducation à la place de Jean-Michel Blanquer. Dans ce journal, on s'attardera tout particulièrement sur le pôle de la planification écologique avec deux femmes pour épauler Elisabeth Borne. Et puis à suivre aussi le portrait de la nouvelle ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. L'analyse de cette nouvelle équipe, les premières réactions politiques également. Émission spéciale de 18h à 20h sur Inter.
France Inter.
C'est donc fait depuis 1h30. Sébastien, la France a un nouveau gouvernement.
Et il aura fallu attendre 26 jours depuis la réélection d'Emmanuel Macron à l'Élysée et 4 jours depuis la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon. Une attente particulièrement longue qui a pris fin à 16h28 exactement avec la nomination des futurs ministres par le secrétaire général de l'Élysée depuis le perron du palais, Alexis Kohler. Sans plus attendre, le détail avec vous Maxence Lambrecq, bonsoir.
Bonsoir.
Alors commençons Maxence par les nouveaux. Qui fait son entrée au gouvernement ?
La surprise s'appelle Pape Ndiaye, 56 ans, historien, directeur du musée de l'histoire de l'immigration, dont il veut faire un élément central de l'histoire nationale. Il est nommé ministre de l'Éducation. L'extrême droite se déchaîne déjà contre lui. C'est un puissant désaveu pour Jean-Michel Blanquer. Ils n'ont pas du tout la même vision de la laïcité. Il est le frère de l'écrivaine et prix Goncourt Marie Ndiaye. À l'enseignement supérieur, choix beaucoup plus classique, la présidente de l'université Paris-Saclay, Sylvie Retailleau. L'autre arrivée marquante, c'est le patron des députés LR, Damien Abad, 42 ans, nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées. Depuis la défaite de Valérie Pécresse, il avait peu à peu pris ses distances avec son parti. Elle était porte-parole de Jacques Chirac à l'Élysée pendant 9 ans. Catherine Colonna hérite du Quai d'Orsay, diplomate de carrière jusqu'à aujourd'hui, ambassadrice de France au Royaume-Uni. Elle succède à Jean-Yves Le Drian, ministre depuis 10 ans. L'égalité femmes-hommes revient à une haute fonctionnaire du ministère de la Justice, chargée à un moment de la lutte contre les violences conjugales, Isabelle Rome. La directrice générale de la Fédération française de tennis, Amélie Oudéa-Castéra, devient ministre des Sports et des Jeux Olympiques de 2024. Autrement, Emmanuel Macron a promu des fidèles. Le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, à la fonction publique, sa conseillère à Culture, Rima Abdul-Malak, devient ministre de la Culture, succédant à Roselyne Bachelot, et puis la députée Yaël Braun-Pivet, nommée à l'Outre-mer.
Voilà donc pour les nouveaux Maxence qui rentrent au gouvernement. Inversement, quels sont ceux qui restent ?
Tout le monde, ou presque, le donnait partant. Éric Dupond-Moretti reste garde des Sceaux, ministre de la Justice, et il gagne même 5 places dans l'ordre protocolaire, ce qui est un message très clair d'Emmanuel Macron qui balaie d'un revers de la main son renvoi, décidé il y a 10 jours, devant la Cour de justice de la République pour des faits de prise illégale d'intérêt. Le chef de l'État s'en moque et maintient sa confiance à l'ancien ténor des barreaux qui depuis 2 ans se bagarre avec la magistrature. Bruno Le Maire devient le numéro 2 du gouvernement, toujours à la tête de Bercy comme il le souhaitait. Gérald Darmanin, lui aussi, toujours place Beauvau, et numéro 3, les deux principales figures politiques du premier quinquennat restent donc en première ligne. Olivier Véran quitte le ministère de la Santé, qui revient à Brigitte Bourguignon, pour s'occuper des relations avec le Parlement. Amélie de Montchalin est promue, elle remplacera Barbara Pompili à l'écologie, pendant qu'Agnès Pannier-Runacher s'occupera de la transition énergétique. En tout, ils sont 14 à rester dans l'équipe d'Emmanuel Macron. 14, oui. Le porte-parole Gabriel Attal est notamment remercié pour ses 2 ans sur les plateaux télé, radio. Il sera chargé du budget.
Alors Maxence, que va-t-il maintenant se passer quand le gouvernement va-t-il se mettre au travail véritablement ?
Les cartons étaient prêts depuis très longtemps chez Amélie de Montchalin ou Olivier Véran par exemple. C'est bon, les passations de pouvoir vont commencer, vont avoir lieu ce soir. Elisabeth Borne, la première ministre, va détailler son équipe et va développer tous ses atouts dans le 20h de TF1 ce soir. Et le premier conseil des ministres est lui convoqué pour ce lundi 23 mai, 10h, presque un mois, jour pour jour, après la réélection d'Emmanuel Macron, ce qui est un record. Ils seront 28 à poser sur la photo de famille.
Voilà, pour la liste complète, rendez-vous sur franceinter.fr. Alors comment analyser maintenant politiquement ce nouveau gouvernement ? Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Sur les équilibres politiques, hein, on sait qu'Emmanuel Macron est l'adepte du « en même temps », mais ce soir, une seule prise de guerre à droite.
Hein. Oui, c'est ce qui frappe, une seule en effet, et c'est Damien Abad, ex-patron des députés LR, Maxence le disait, qui prend le portefeuille des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. On peut y ajouter tout de même la nomination au Quai d'Orsay de la diplomate Catherine Colonna, qui était tout de même pendant 9 ans porte-parole de Jacques Chirac à l'Élysée entre 1995 et 2004. À part cela, en effet, très peu d'ouverture. Ils sont 20 sur 27 à venir de la majorité présidentielle sortante. C'est un vrai gouvernement ensemble, avec un point d'exclamation. Vous savez, c'est le nom de la nouvelle bannière qui regroupe En Marche, le Modem et Horizon, le parti d'Édouard Philippe qui n'a d'ailleurs droit qu'à un seul ministre, le maire d'Angers, Christophe Béchu, aux collectivités territoriales. Celui de François Bayrou, le Modem, en a un également, Marc Fesneau à l'agriculture, mais aussi une secrétaire d'État. C'est la députée de Guadeloupe, Justine Bénin, qui est en charge de la mer.
Alors Simon, au final, c'est quoi le rapport de force politique droite-gauche ce soir au sein du gouvernement ?
Il est à chercher donc dans cette majorité plutôt que dans ce qu'on appelle les prises de guerre. Les postes régaliens restent aux mains des anciens de la droite. Bruno Le Maire à Bercy, Gérald Darmanin à l'intérieur et Sébastien Lecornu qui est promu aux armées. Et les ministères sociaux sont pour les macronistes venus de la gauche. Brigitte Bourguignon à la santé qui remplace un autre ex-socialiste, Olivier Véran qui prend lui les relations avec le Parlement. Olivier Dussopt, ex-PS également au travail et au plein emploi.
Et autre dernier critère d'analyse de ce gouvernement, la parité homme-femme. Est-ce qu'elle est respectée ?
14 hommes, 13 femmes dans les 27 noms annoncés ce soir. Si l'on ajoute la première ministre Elisabeth Borne, ça fait donc 14. C'est le cas depuis le début du quinquennat Macron. La parité est respectée effectivement dans ce premier quinquennat d'Elisabeth Borne.
Alors Simon Le Baron, merci. On l'a dit, hein, une grosse surprise ce soir. Elle est à l'Éducation nationale. La plus symbolique, c'est l'arrivée effectivement de Pape Ndiaye à la rue de Grenelle. Bonsoir Mariam El-Kurdi.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du ministère de l'Éducation nationale pour la passation de pouvoir imminente, hein, je crois, entre Jean-Michel ouais. Blanquer et Pape Ndiaye. C'est un historien normalien qui fait son entrée au ministère.
Oui, effectivement, Pape Ndiaye, on peut le dire, c'est un petit peu la nomination qui représente la rupture, alors que Jean-Michel Blanquer a un parcours de haut fonctionnaire, lui a une carrière d'universitaire, vous l'avez dit, il est historien spécialiste des États-Unis et des minorités, professeur à Sciences Po, et depuis un an, directeur du musée de l'histoire de l'immigration. Le message d'ouverture semble fort. Pape Ndiaye est né en France, à Antony, dans les Hauts-de-Seine, d'un père sénégalais, d'une mère française. C'est aussi une rupture de par son engagement intellectuel. Il a participé à la création d'une association pour la promotion de la diversité en France. Il a siégé au conseil scientifique du CRAN, le conseil représentatif des associations noires de France. Il est aussi l'auteur de La Condition noire, publié en 2008. L'ouvrage vise à combler un manque en France, celui d'une approche socio-historique de la discrimination d'un groupe, en l'occurrence les Noirs de France métropolitaine. Un symbole de rupture, c'est ce que dit le SNES-FSU. Cette nomination, certes, est un symbole de rupture, mais l'Éducation nationale ne fonctionne pas à coup de symbole. Je cite, Pape Ndiaye arrive dans un contexte historique grave pour le service public d'Éducation nationale et parmi les enjeux à venir, l'attractivité du métier d'enseignant ou encore la revalorisation des salaires.
Jeffrey Marianne, qui était avec Mariam El-Kurdi en direct de la rue de Grenelle. Ajoutons cette réaction de Dominique Sopo, président de SOS Racisme ce soir, dans un gouvernement peu divers, la nomination de Pape Ndiaye, homme issu de l'immigration subsaharienne comme ministre de l'Éducation, est un beau symbole. Inversement, la réaction ce soir d'Éric Zemmour, Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire l'histoire de France. Pape Ndiaye va s'en charger. Quel accueil les syndicats d'enseignants, eux, réservent-ils à Pape Ndiaye ? La réaction écoutée de Sophie Venetite, elle est secrétaire générale du SNES-FSU, le principal syndicat des collèges et des lycées.
Il y a clairement une forme de surprise parce que ça fait pas partie des noms qui ont circulé dans le grand mercato ministériel de ces dernières heures et de ces derniers jours. Clairement, il y a un symbole, il y a même plusieurs symboles avec une forme de rupture avec Jean-Michel Blanquer, rupture sur les idées, rupture sur la méthode, ça c'est une évidence. On pense que Emmanuel Macron a certainement voulu parler aux enseignants, mais nous, au SNCFSU, on veut quand même rappeler une évidence, c'est que l'éducation nationale, elle ne se gouverne pas uniquement à coups de symboles, qu'il y a des urgences qui sont bien réelles, à commencer par l'urgence salariale, et il va falloir que le nouveau ministre, Pap Ndiaye, s'en préoccupe très rapidement.
On va maintenant aborder un autre grand dossier de ce gouvernement avec la question centrale, prioritaire de la planification écologique. Bonsoir Sandy Dauphin.
Bonsoir.
Pour traiter de ce sujet brûlant, un trio de femmes, Elisabeth Borne, la première ministre en charge de la planification écologique, entourée d'Amélie de Montchalin, la planification écologique et territoriale, et d'Agnès Pannier-Runacher à la transition énergétique. Est-ce que la constitution de ce pôle spécifique autour de l'écologie est une nouveauté?
En tout cas, ce qui est nouveau, c'est surtout que toute la question de l'énergie, et c'est un gros morceau, sort du ministère de la Transition écologique et obtient son propre portefeuille, celui de la transition énergétique, confié, vous le disiez, à Agnès Pannier-Runacher. Sinon, eh bien, c'est une répartition assez classique, avec une ministre de l'écologie, cinquième, certes, dans l'ordre protocolaire du gouvernement, un ministre de l'économie, avec Bruno Le Maire qui reste aux commandes, et un ministre de l'agriculture, Marc Fesneau. Les écologistes auraient bien voulu que l'agriculture soit rattachée au ministère de l'Environnement. Bref, ces trois ministères ont l'habitude de s'affronter sur des questions importantes. Par le passé, les ministres de l'Environnement se sont souvent plaints d'ailleurs de perdre des arbitrages face à Bercy et à l'agriculture. Toute la question est de savoir si Amélie de Montchalin, 36 ans, souvent décrite comme une techno, mais aussi comme l'une des ministres préférées d'Emmanuel Macron, eh bien si elle aura le dernier mot auprès de la première ministre, Elisabeth Borne, qui a promis d'agir plus vite et plus fort sur les questions climatiques.
Sandy Dauphin, ajoutons la réaction ce soir de Greenpeace, accueil très frais, on cherche encore les écologistes au gouvernement, c'est clair que ça n'augure rien de particulièrement enthousiasmant, réaction de Jean-François Julliard, le directeur général de Greenpeace. En pleine guerre en Ukraine, la France change également la tête de sa diplomatie, on l'a dit, c'est Catherine Colonna qui est donc nommée à la tête du Quai d'Orsay, une diplomate de carrière, Jean-Sébastien Soldaini, issu du Sérail.
Oui, c'est une carrière de diplomate presque entièrement tournée vers l'Europe pour Catherine Colonna, un dossier qu'elle maîtrise particulièrement puisqu'elle occupe le poste de ministre déléguée aux affaires européennes pendant 2 ans, de 2005 à 2007. Elle travaille sur ces questions dès le début de sa carrière pour un organe discret mais essentiel au ministère, le centre d'analyse et de prévision. C'est lui qui doit anticiper les crises. Catherine Colonna arrive tout droit de Londres où elle était ambassadrice depuis 2019, poste prestigieux mais aussi poste où il devient habituel de savoir appréhender les crises. Elle est en première ligne au moment du Brexit. Elle gère le conflit entre la France et l'Angleterre lorsqu'il est question des licences de pêche. En 2007, elle s'exprime après la mort du prédécesseur de Vladimir Poutine et ses mots résonnent étrangement aujourd'hui.
Je crois qu'il nous faut, en tant que pays ami de la Russie, saluer la mémoire du président Yeltsin, qui a été un partenaire de qualité pour nous, avec une personnalité et un charisme inégalé, mais dont je veux surtout rappeler aujourd'hui qu'il a été l'un de ceux qui s'est dressé au bon moment pour être du côté des démocrates et mettre son pays sur la voie de la modernité.
En 1995, et c'est une rare parenthèse, hors des services du Quai d'Orsay, elle rejoint l'Élysée, porte-parole de Jacques Chirac pendant 9 ans. C'est un autre de ses marqueurs, la droite gaulliste. Pas inutile à l'approche des élections législatives. Et puis un point noir, Catherine Colonna n'a pas bonne presse auprès des jeunes diplomates réputés durs dans son management. Pas forcément un avantage alors qu'une grève se dessine au Quai d'Orsay.
Jean-Sébastien Soldaini. Et puis autre nouvelle entrée au gouvernement, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, laisse sa place à la conseillère culture de l'Élysée, Rima Abdul-Malak. Bonsoir Ilana Mor-Youssef.
Bonsoir.
Peu connue du grand public. Hein.
Oui, en effet, mais déjà influente dans le domaine de la culture, puisqu'elle était conseillère culture à l'Élysée. Certains la présentaient même comme la véritable ministre de la Culture, tant elle est appréciée d'Emmanuel Macron. Rima Abdul-Malak, née en 1978 au Liban, arrive en France avec sa famille à l'âge de 10 ans. Son CV démontre un intérêt incontestable pour la culture. Après quelques années dans l'humanitaire, notamment à Clowns sans frontières, elle prend la tête du pôle Musiques Actuelles de l'Institut français. Puis elle travaille aux côtés de Christophe Girard, alors adjoint à la culture à la mairie de Paris, et devient ensuite conseillère culture du maire de Paris d'alors, Bertrand Delanoë. Après quelques années à New York en tant qu'attachée culturelle, elle rentre à Paris. 2019 qu'elle devient conseillère culture et communication d'Emmanuel Macron. On sait qu'elle est connue et appréciée du monde de la culture, qu'elle est toujours à l'affût de ce qui se fait en matière de création contemporaine. À ce poste, elle devra gérer, entre autres, le délicat dossier de la suppression de la redevance audiovisuelle annoncée par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle.
Ilana Mor-Youssef, quelles sont les premières réactions à cette nouvelle équipe gouvernementale? Gérald Darmanin qui reste à l'intérieur, une bonne chose pour plusieurs syndicats de police. Au contraire, le syndicat de la magistrature évoque lui son incompréhension, sa déception après le maintien d'Éric Dupond-Moretti. Nous ne savons pas comment ce maintien permettra la reprise du dialogue totalement rompu avec les professionnels. Et puis côté politique, l'un des premiers à réagir, c'est Jean-Luc Mélenchon, à la tête de la NUP, la gauche unie, un gouvernement, selon lui, libéral et sans audace.
Sous des apparences ternes et grises, sans audace et de peu d'entrain, on y retrouve les principales figures de la maltraitance sociale et de l'irresponsabilité écologique du précédent gouvernement. Avant toute chose, ce sera donc le pire, c'est-à-dire la continuité. On se demande où est passé le tournant écologique et social dont on nous avait rebattu les oreilles entre les deux tours de l'élection présidentielle, puis dans les heures fort longues où l'on a attendu la nomination de la Première ministre, puis celle du gouvernement lui-même. C'était donc une fois de plus parole verbale, et pour mieux dire, des mensonges.
Voilà les réactions de Jean-Luc Mélenchon, ajoutons celles de Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, la nomination notamment de Pap Ndiaye, indigéniste assumé, dit-elle, à l'éducation nationale, et la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, Christian Estrosi, lui maire de Nice. En tant que maire, je prendrai toute ma part pour aider le gouvernement Borne à réussir. On termine avec un petit résumé des principaux ministres, donc nommés aujourd'hui dans l'ordre protocolaire. Je vous le rappelle, Bruno Le Maire à Bercy, qui reste à Bercy. Gérald Darmanin reconduit au ministère de l'Intérieur. Catherine Colonna nommée ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à la place de Jean-Yves Le Drian. Éric Dupond-Moretti lui reste garde des Sceaux au ministère de la Justice. Première surprise, on en a parlé, l'historien Pap Ndiaye à l'éducation nationale. Elisabeth Borne qui sera épaulée à la planification écologique par Amélie de Montchalin. Et Agnès Pannier-Runacher, pardon, à la santé, c'est Brigitte Bourguignon qui prend la place d'Olivier Véran, Olivier Dussopt au travail, et puis Damien Abad, ministre des Solidarités. On revient sur le détail, bien sûr, de ce gouvernement toute la soirée. Voilà ce qu'on pouvait dire à 18h17 sur Inter, suite de l'émission spéciale avec vous, Claire Servageant.
Oui, merci beaucoup, Sébastien Legénieux.